Suite pour une
parade de Shabbat. À propos de la relation entre l'événement de Pourim par rapport à la révélation de la Torah. Okay, nous allons voir un peu brièvement en première partie du cours. Et en deuxième partie du cours, je vous donnerai, si j'espère encore le temps, une deuxième référence dans le Sefer de Varim. Alors d'abord, vous allez reprendre la paracha de Vaera. C'était là qu'on avait commencé. Chapitre 6 dans Shemot. Au début du chapitre 6, la paracha de Vaera. C'est-à-dire, j'avais commencé à vous exposer l'événement historique où se trouve le texte que nous allons lire, et puis ça avait bifurqué dans différentes questions. Alors je vous rappelle donc au moment où l'événement de Géoula de l'Égypte va se produire, les persécutions se font de plus en plus, disons le Sherloud, l'asservissement des Hébreux se fait de plus en plus difficile. C'est ce thème qu'on avait commencé à étudier, et donc Moïse interroge Dieu pour savoir pourquoi il en est ainsi. Bon, je ne reviens pas sur tous les détails de ce qu'on avons vu, mais de ce que nous avons vu, mais le principe qui apparaît dans l'ensemble des commentaires à ce sujet, c'est que précisément si la Torah nous raconte cela de la manière dont cela s'est passé, c'est pour que cela nous serve d'enseignement. Étant donné que c'est la première fois qu'un épisode important du point de vue du récit de la Torah se passe, c'est la première fois que nous découvrons comment cet épisode fonctionne. Or, on pourrait se dire, du point de vue d'une sagesse théorique, on pourrait se dire qu'a priori, Moïse lui-même pouvait comprendre que précisément au moment où l'événement doit se réaliser, que les difficultés commencent. Vous vous rappelez de ce thème, la différence entre le rêve, une espérance, et la réalité. Tant que l'espérance est au niveau espérance, alors elle est parfaite en elle-même. Il n'y a pas de place pour le doute. Lorsqu'on a une foi, lorsqu'on a une espérance, eh bien, elle est authentique, elle est totale. Et donc, il n'y a aucun problème de doute quant à la foi des Hébreux. Et je parle de ceux qui avaient leur propre foi. Elle était totale. C'est au moment de la réalisation de cette espérance que les difficultés de la réalité commencent. Et donc, le doute risque d'apparaître. Est-ce que c'est bien clair, Ken? Vous avez bien compris cela? Top. Et alors, je vous avais cité ce midrash, je pense que c'était bien dimanche, si je me souviens bien, où les Hébreux sont nommés par le midrash Ma'aminim, Mne Ma'aminim. C'était bien cela, Ken? Tout le thème de l'être père et l'être fils, vous vous rappelez? Bon, l'être père est un être de promesse, et donc il n'y a pas de place pour le doute pour celui qui adhère à une promesse. Mais c'est la foi des pères. La foi des pères, c'est la foi qu'une promesse s'accomplira. Et tant qu'on est encore au niveau relation à la promesse comme promesse, la foi est absolue. Okay? Les difficultés commencent quand la réalisation va commencer. Alors, où était l'erreur de cette génération? C'était pas de ne pas être croyant, ma'aminim. C'était d'être ma'aminim, bnei ma'aminim. Ne vous trompez pas, hein? Le pshat, c'est que non seulement ils sont croyants, mais ils sont croyants, fils de croyants, ça veut dire que c'est dans l'atavisme juif, enfin hébreu, d'être capable de foi. Le pshat, c'est croyant, fils de croyant. Ça veut dire que ça se perpétuera toujours. C'est une identité capable de émouna qui se perpétue à travers les générations. Mais le drash que je vous ai cité, c'est que ils étaient ma'aminim de la manière dont il était normal et authentique d'être ma'aminim à l'époque de leur père. Okay? Et c'est pourquoi nous avons fait le diagnostic pour notre jour, pour notre temps, la comparaison est très facile à faire. Okay. Aujourd'hui, si nous admettons comme postulat que la réalisation a commencé, alors cette foi qui consiste encore à croire dans la promesse est une foi erronée. Mais ça ne veut pas dire qu'en elle-même, elle n'était pas authentique au temps des pères. Ça y est, c'est clair. Vous avez compris le problème. Okay. Et je crois que là, vous pouvez réfléchir à cela. Ça nous donne un peu la définition de la gravité d'une hérésie. Okay? C'est beaucoup plus grave de se tromper de foi que de ne pas avoir la foi. Si on n'a pas la foi, on n'est pas dans le coup. Okay? Je parle de tel ou tel projet historique. Si on n'a pas la foi d'un projet historique donné, ça veut dire qu'on n'est pas dans le coup, ça ne nous concerne pas. Hein? Mais si on se relie à ce projet historique, mais dans une erreur de la foi, c'est beaucoup plus grave. Oui. Pourquoi du point de vue des critères de la théologie générale, pas seulement pour le judaïsme, la relation à l'infidèle, celui qui n'a pas la même foi, l'infidèle, le mot a changé de sens en français, mais je vous le garde dans le sens étymologique, hein, celui qui n'a pas, qui ne participe pas de la même foi s'appelle un infidèle. En français, ça a changé de sens, ça veut dire celui qui a perdu, qui a une faute vis-à-vis d'une fidélité. Hein. Non, mais je prends le sens préalable. La relation à l'infidèle a toujours été moins grave que la relation à l'hérétique, parce que l'hérétique, c'est l'homme d'une foi, mais dans l'erreur, alors que l'infidèle est celui qui n'est pas dans cette foi. Est-ce que vous avez compris le... Est-ce que c'est clair, Ken? Bon. Et alors, donc voilà, d'une autre manière, si vous voulez, l'infidèle est celui qui pourrait avoir la foi, mais ne l'a pas, tandis que l'hérétique est celui qui a la foi, mais il est plus dangereux parce que sa manière de se relier à cette foi porte, met en question cette foi elle-même. Enfin, je veux dire, la met en danger. Est-ce que c'est clair? Pour donner un exemple, dans la Gomara, on étudie pour les tfilines. Eh bien, la Torah demande pour mettre les tfilines. Et alors, bon, celui qui ne met pas les tfilines, eh bien, viole un commandement de la Torah. Mais celui qui dit, je mets les tfilines, mais je ne veux pas des tfilines carrées, je veux des tfilines ronds, ça, c'est beaucoup plus grave. Vous avez compris le problème? Est-ce que c'est clair? Il y a ici une espèce de paradoxe, parce qu'on pourrait se dire, bon, au moins il met des tfilines. Non, mais le fait qu'il mette des tfilines, pas comme la halakha, c'est plus grave que s'il ne les mettait pas. Vous voyez le problème. Bon. Et alors donc, je reviens à cette question. C'est la première fois qu'on découvre cette difficulté. Alors là, nous allons lire ce texte pour nous rattacher à notre sujet. Quand Dieu va répondre à Moïse pourquoi il y a une telle difficulté, et la réponse dans l'essentiel c'est en un mot, parce que le temps de la réalisation a commencé. Okay? Alors, et rappelez-vous donc l'image de l'accouchement. Vous vous rappelez de cela? Okay? Bon, je pense que maintenant c'est suffisamment clair dans ce problème. Et alors on voit que dans tout ce programme, il n'est pas du tout prévu que Israël doive passer au Sinaï et recevoir la Torah. Vous vous rappelez du sujet? Okay? C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question de la manière suivante. Il faut reprendre le texte du chapitre 19 dans la paracha de Yitro pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Or, ce qui s'est passé vraiment au Sinaï, eh bien, on s'est déshabitué de le voir en réalité comme cela a été dans la réalité historique. Ça, nous l'avons étudié quand on a étudié le Kriyat Shema. Vous vous rappelez? Quand on a étudié la troisième lecture, qui s'adresse à qui pour dire Shema Israël, okay, et que c'est Moïse qui s'adresse à Israël pour lui dire « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». Pourquoi? Parce qu'il y avait précisément une contestation entre Moïse et Israël, plus exactement entre Israël et Moïse par rapport à la Torah, et que c'était la raison pour laquelle il a fallu que Dieu se révèle aux yeux du peuple pour habiliter la mission de Moïse. Vous vous rappelez de cela? Okay? Nous allons le revoir tout à l'heure. Mais ce que je veux surtout mettre en évidence ici, c'est ce point-là. Ça veut dire que c'est a posteriori qu'il a été nécessaire qu'il y ait la révélation du Sinaï. Parce que les Hébreux n'étaient pas au stade où ils auraient pu directement, de l'Égypte, en prenant le chemin de la côte, dit le texte, qui s'appelle Derech Eretz Pelishtim, les colonies des Philistins étaient installées sur la côte, dans toute la région qui va d'ailleurs de El Arish. Enfin, la Arish, c'est pas sur la côte, mais c'est sur la côte, El Arish. De l'Égypte, vous voyez Ashdod, Ashkelon, tout cela, Haza, bien sûr, tout cela, c'était des colonies des Plishtim. Plishtim en hébreu, ça veut dire. Non, Plitim, réfugié. Hein. Ouais, vous voyez le résultat de la propagande arabe. Hein. C'est juste le problème. Oui, les envahisseurs. Okay. Les Plishtim, c'est. L'Ifloche, ça veut dire faire une conquête. Invasion. Les envahisseurs, okay. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'ils ont pris ce nom-là. Les Palestiniens, ça vient de Plishtim, finalement. Okay. Alors, tu vois, qu'est-ce qu'elle a dit, les réfugiés, okay. Juste le contraire. Et vous voyez comme, non, je plaisante, mais vous voyez comme inconsciemment on peut se laisser faire avoir par la propagande. Et alors, en prenant ce chemin-là, il aurait suffi, dit le texte, de 11 jours de marche pour entrer en Eretz Israël. Mais voilà qu'on va faire un immense détour, okay, par le sud. Et finalement, ce détour va durer 40 ans. Okay. Alors, vous voyez, un peu la surprise qu'on pourrait avoir. On est tellement habitué que ça va de soi. À la sortie d'Égypte, on est arrivé au Sinaï pour recevoir la Torah. Okay. En fait, ce n'est pas du tout prévu au programme. C'est a posteriori qu'il y a eu une nécessité. Alors, a posteriori, donc, c'est donc très important. Et on étudie pour quelles raisons, a posteriori, cela a eu lieu. Mais a priori, pas. Pourquoi je vous cite encore ce problème? Parce que c'est, au fond, un des conflits fondamentaux dans le monde contemporain. On pourrait le formuler de la manière suivante. Quel est l'objectif de la sortie d'Égypte? Bon, eh bien, les non-sionistes répondraient, l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la Torah. Et ceci dit, eh bien, si on mérite que le Messie vienne, alors il nous donne l'Eretz Israël aussi en prime, mais sinon, l'essentiel, c'est la Torah, il faut la pratiquer n'importe où, à partir du désert. Vous voyez bien, le désert, c'est pas l'Eretz Israël. Et pourquoi ça a été donné au désert? C'est pour que cette Torah puisse être universelle, et donc, pour pouvoir être pratiquée partout. Et Eretz Israël, eh bien, Eretz Israël, si on mérite le Messie. Vous voyez, vous devinez que c'est pas ma thèse, okay? Mais j'essaye de vous la plaider là, le plus ironiquement possible, mais enfin... le moins ironiquement possible, pardon. Mais vous voyez, cette position-là est tellement assurée d'elle-même qu'elle ne se rend pas compte qu'elle contredit le texte de la Torah elle-même. Okay? La deuxième thèse, c'est que la sortie d'Égypte, c'est en vue de rentrer en Eretz Israël et là recevoir la Torah. Alors pourquoi la Torah a été reçue au Sinaï? Parce qu'on n'a pas été à la hauteur du premier objectif. Alors, un programme de remplacement est arrivé. Est-ce que c'est clair? Vous avez bien compris? Bon. Et vous voyez, ces deux thèses, lorsque elles sont... Bon, je vais essayer de vous expliquer que c'est la deuxième thèse qu'on apprend de la Torah elle-même. Que l'autre, c'est une idéologie, une opinion dérivée. Mais quand ces deux thèses se cristallisent, il n'y a plus de dialogue possible entre les deux. Et c'est ça qui est de dramatique. Quelqu'un qui fait partie de la première thèse, il est tellement persuadé que c'est la Torah qui est essentielle, qu'il ne peut plus voir le rôle d'Eretz Israël dans cette Torah. Okay? Et alors, ça se dédouble. Bien sûr, la Torah parle beaucoup d'Eretz Israël, et puis c'est très important, Eretz HaKodesh, la Terre Sainte, les pèlerinages, tout ce que vous voudrez, okay? Il vaut mieux être enterré là-bas, parce que la résurrection des morts, on sera mieux placé, et tout ce que vous voudrez. Mais ça ne fait plus partie de ce qu'était le projet originel de la Torah, et qui nous est décrit de façon tellement claire, une fois qu'on comprend la deuxième thèse, alors on se demande comment ceux de la première fonctionne. Hein? Que l'objectif de la sortie d'Égypte, ça n'a jamais été d'aller au Sinaï recevoir la Torah. Ça a été de rentrer en Eretz Israël.
Mais comment il peut faire cette erreur?
Mais comment un homme peut faire une erreur? Une passion, c'est une passion. Okay? Si vous voulez, bon, je ne voudrais pas bifurquer sur un autre sujet, mais je vais vous expliquer très rapidement, mais je vous l'ai dit mille fois, la vraie raison qui les arrête dans cette erreur. C'est qu'à l'apparition du sionisme, le sionisme s'est opposé à la communauté religieuse. Et donc, les chefs de la communauté religieuse se sont opposés au sionisme. Okay? Bon, je schématise, vous avez compris. Et j'ai expliqué ces deux points. Il a fallu qu'apparaisse un mouvement sioniste politique qui, comment dire, décroche de la communauté juive traditionnelle, parce que la communauté juive s'était installée dans une symbiose judéo-goy, okay? Toutes les communautés de diaspora étaient comme ça, une symbiose tellement bien accrochée, tellement bien adaptée à travers 2000 ans, que pour pouvoir dégager les juifs de cet engluement, il fallait détruire ce type de communauté pour sauver les juifs. Ça a été la position, je schématise, mais vous comprenez ce qui s'est passé. Ça a été la position du sionisme politique à l'origine. Alors tous vos professeurs vous ont expliqué ça plus ou moins, okay? Les sionistes sont ceux qui ont perçu que si on ne décrochait pas de la civilisation européenne, et alors transposer Moïse à la sortie d'Égypte, une catastrophe arriverait. Et elle est arrivée. Okay? Et alors, et vous allez voir ensuite comment quand on devient tordu, on est tordu jusqu'au bout. Parce qu'ensuite, c'est ces orthodoxes, ces juifs orthodoxes, qui ont eu devant eux un mouvement étrange. Un Moïse venant dire Israël est une nation. Okay? Alors jusqu'à présent, ils avaient entendu pendant 2000 ans Moïse leur dire Israël est une religion. Okay? Vous suivez? Et puis, ce mouvement étrange qui s'oppose à la tradition juive pour sauver les juifs, la réaction de ces rabbins a été une réaction très violente d'opposition au sionisme. C'est clair? Et alors, aujourd'hui, les rabbins qui ont cette position-là l'ont parce qu'ils sont fidèles à leur maître. Et qu'il y a une telle force dans ce klal de Emunat Hachamim dans la tradition juive, comme d'ailleurs dans toute tradition, mais surtout dans la tradition juive, étant donné que leurs maîtres ont dit non, c'est pas kasher, ils peuvent pas, même s'ils le voient avec leurs yeux, qu'il faut réadapter une autre position vis-à-vis du sionisme et de l'État d'Israël, ils ne peuvent pas, à cause de la fidélité qu'ils doivent à leur maître. Et comme leurs maîtres ne sont plus sur Terre pour s'expliquer avec eux, alors il y a un blocage, il y a une impasse, et leur position est dramatique. J'en connais beaucoup qui, avec leurs yeux, voient qu'il y a eu une erreur à l'origine et qu'il faut corriger, mais qui ne peuvent pas, parce qu'ils doivent être fidèles au souvenir de leur maître. Et admettons même qu'il y avait dans les apparences de quoi se tromper à l'apparition du sionisme. Seuls les rabbins kabbalistes ont diagnostiqué que le commencement du sionisme, c'était le Mashiach ben Yosef. Okay? Et on a beau leur citer des maîtres du calibre du Gaon de Vilna, okay? Pas moyen. Et parce qu'il y a une passion, vous comprenez? Et alors ils sont dans une situation extrêmement dramatique, parce que lorsque quelqu'un sait qu'il se trompe, mais qu'il est obligé, pour d'autres raisons que la vérité, de perpétuer dans cette erreur, il est très malheureux. Comprenez, un cœur humain ne supporte pas une contradiction aussi grave. Ils sont tous cardiaques. Vous avez compris le problème? Et alors, j'ai eu moi-même un maître en Europe qui était farouchement anti-sioniste pour cette raison-là. Parce que le sionisme politique apparaissait comme, avec comme objectif de détruire la tradition pour pouvoir sauver les juifs. Moi, il m'a fallu des années pour arriver à comprendre que l'évidence de ce fait, et qu'effectivement, c'est ça qu'il fallait faire. Okay? Parce que c'était la symbiose de la communauté juive traditionnelle qui avait fait prendre ces juifs dans un piège. Le piège de ce qui est arrivé en Europe avec le nazisme. Et je voulais vous montrer jusqu'où va la malignité des ruses de la conscience lorsqu'une conscience est tordue. Enfin, est dans un chemin tordu, si vous voulez. C'est que dans cette thèse-là, anti-sioniste, alors, la Shoah, c'est la punition du sionisme. Parce que le peuple juif a voulu, être traître à la Torah et vouloir revenir en Eretz Israël avant la fin des temps, avant que le Messie ne vienne, alors Dieu a puni le peuple juif par la Torah, par la Shoah. C'est-à-dire que la Shoah serait la sanction du sionisme. Alors qu'il est bien évident que dans les faits, la Shoah a été la conséquence du fait qu'on n'a pas suivi la déclaration Balfour.
La Shoah s'est rapportée sur les juifs qui sont restés, c'est par rapport aux
sionistes. Oui, non mais...
C'est un argument qui tient pas
de... Non, mais bien sûr que ça tient pas de vous, mais j'essaie de vous décrire à quel point une conscience passionnée, comme on dit, passionnelle, ne peut plus raisonner normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai mis longtemps pour m'apercevoir de cela. Il y a un poids affectif dont vous n'avez aucune idée de sa force. Le souvenir de leur maître. Et ça, on ne peut le comprendre que quand on est en milieu orthodoxe. On peut comprendre ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Et je vous dirais même... Je vais vous donner un exemple. Je vous ai parlé de Or Yosef. Un des hommes qui sont à la tête de Or Yosef, pas le Rosh Yeshiva, qui s'appelle Lieberman, si je me souviens bien, et qui venait donc de la Yeshiva de Novardok. C'était une toute petite Yeshiva à l'époque, mais toute une équipe des éclaireurs, qui étaient des Baal Yeshiva, des éclaireurs, que j'ai eu moi l'imprudence d'envoyer à Getzet pour qu'ils se forment, et c'est là-bas qu'ils sont venus comme ça. Et à l'époque, je croyais que, moi j'étais naïf, j'arrivais d'Afrique, je croyais qu'une yeshiva, c'était une yeshiva normale, que toute yeshiva est une yeshiva normale. On ne pouvait pas s'imaginer, à l'époque, qu'il pouvait y avoir derrière la même Torah des idéologies aussi différentes, en tout cas par rapport à l'essentiel. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien. Et alors, bon, je vais vous dire son nom, d'ailleurs c'est le Rav Reutnemer, maintenant. Vous avez entendu parler de lui peut-être. Qui est un des principaux chefs maintenant de la yeshiva de Or Yosef, enfin Fublen, quoi. À qui lui a donné cette dimension-là, avec d'autres, d'ailleurs, qui étaient moins forts que lui, mais qui venaient tous du...